le titre de l'intervention, redescendre de pic pétrolier une promenade de santé, c'est, comment dire, pour essayer d'apporter quelques images concrètes à la problématique du pétrole. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet, mais je vais présenter cette petite session en deux parties. La première, on va essayer de comprendre les contraintes sur les ressources énergétiques et essentiellement le pétrole. Et la deuxième, on va essayer de voir comment on peut envisager, alors en restant d'un point de vue technique, et l'avenir n'est pas écrit, donc c'est pour ça que je dis seulement envisager, et comment s'articulent les solutions possibles. Alors, le problème du pétrole, c'est qu'il est souvent mal compris, alors qu'il n'est pas très compliqué finalement à percevoir. Il faut juste prendre l'explication dans le bon sens. Alors on dit souvent il reste 40 ans de pétrole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, il reste 40 ans de pétrole? Ça, c'est une expression assez trompeuse, parce qu'on va dire oui, puis en plus ça fait 30 ans qu'il reste 40 ans de pétrole, donc bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, effectivement, poser le débat comme ça, c'est pas la bonne manière de le poser. Alors vous voyez ici l'élément historique de production du pétrole. Hein, depuis 1930, on a vu la montée progressive, et puis on voit les deux chocs pétroliers. Là, on est sur le débit de la production. C'est quelque chose d'assez important dans la compréhension du débat. Hein, donc le débit de la production augmente, et puis baisse un petit peu pendant les chocs pétroliers. Hein, c'est pas les prix ici, et puis repart ensuite. À partir du contre-choc au milieu des années 80, progressivement. Quand on dit il reste 40 ans de pétrole, finalement, c'est jamais qu'une manière d'exprimer une quantité. Donc c'est une représentation statique. C'est-à-dire, on dit, voilà, 40 ans de pétrole, plutôt que de dire, alors dans les médias, si on commence à dire il reste 1200 milliards de barils et on en consomme 30 milliards par an, même si j'ai déjà bien arrondi les chiffres, c'est déjà trop compliqué pour les médias. Donc, 40 ans au moins, bah voilà, c'est la même chose, hein, mais 40 ans, ça paraît plus simple. Mais finalement, c'est une représentation trompeuse, parce que c'est une fausse représentation dynamique. C'est une représentation statique qui est camouflée dans une représentation dynamique. C'est pour ça que j'ai mis du camouflage sur notre petit rectangle, pour marquer un petit peu les esprits sur ce point-là. Vous avez le droit de faire une vision statique d'un problème en disant quelles sont les réserves à une date donnée aujourd'hui. C'est tout à fait légitime, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez le droit d'essayer de faire une représentation dynamique en disant comment va-t-on consommer ces réserves dans le futur. Mais vous ne mélangez pas les deux. Et quand on veut essayer de représenter la manière dont les choses se passent dans le futur, eh bien, il faut plutôt parler de la notion de pic de production de pétrole, qui est finalement relativement simple. On a un schéma explicatif ici, très schématique, hein, parce qu'il s'agit de comprendre le principe, mais finalement, on va voir que la réalité est si loin que ça. Le problème du pétrole, c'est plus un problème de débit du robinet que de taille de réservoir. Alors là, finalement, on a un peu le même schéma. On a le débit que vous voyez ici en rouge. Et on peut voir l'exploitation du pétrole séparé en deux moitiés. Une première avec une exploitation facile, entre guillemets, puisqu'il y a eu énormément de défis qui ont été relevés. Et une deuxième avec une exploitation plus difficile. Et c'est dans cette phase qu'on rentre. Alors, le début de l'ère industrielle du pétrole, 1859, c'est une convention. C'est le moment où les États-Unis découvrent les techniques qu'on avait déjà mises en œuvre en Europe, notamment autour de Bakou. Et là, eux rentrent dans une ère industrielle. Donc ce n'est pas uniquement un problème technique, c'est aussi la manière dont ils mettent en œuvre ces techniques au niveau de l'organisation, disons, socio-économique. C'est important de le distinguer. Et donc, début de l'ère industrielle du pétrole, on commence à découvrir, comprendre les techniques de prospection. Ensuite, on commence à avoir le choix entre des gros gisements faciles d'accès et des petits gisements assez difficiles d'accès. Donc, bien évidemment, c'est du bon sens, pas besoin de chercher une loi économique derrière. On va chercher les gros gisements faciles d'accès. C'est ceux qu'on exploite en premier. Et c'est bien ce qui se passe. Pour augmenter le débit de la production, hein, donc ce trait rouge que vous voyez ici, eh ben, on met de nouveaux gisements en exploitation. Et un gisement, ben, il arrive en fin de vie au bout d'un certain moment, et il est remplacé par d'autres. Et dans cette première phase que j'ai qualifiée de facile, eh ben, on arrive sans trop de difficultés à mettre suffisamment de nouveaux gisements en production pour compenser le déclin de ceux qui arrivent naturellement en fin de vie, et ainsi de suite, et la production augmente. Et arrive un moment, et donc en fait on parle de pic de production, on a plutôt un plateau, c'est ce qu'on est en train de vivre, où ben, tout simplement on n'arrive pas à suivre le rythme. Alors il reste encore énormément de pétrole, puisque bon, si on a pris ça en moitié, on discutera après de la qualité des pétroles, mais il reste quasi autant que ce qu'on avait dans la première moitié, donc il en reste beaucoup. Donc si on regarde juste la quantité, on dit, ah, il en reste beaucoup, il n'y a pas de problème, voilà. Donc en fait c'est un problème de mise en œuvre des projets, et on constate, avec le pétrole offshore, qu'on arrive à relever des défis considérables, mais que c'est de plus en plus compliqué, que les gisements sont de plus en plus petits, et puis qu'on met de plus en plus de temps à les mettre en production entre le moment où on découvre un gisement et au moment où on peut réellement arriver au niveau de production maximum du gisement en lui-même. Donc voilà pour le principe. Alors, la fin du pétrole, hein, vous le voyez ici, 2150, c'est vraiment très schématique, il faut voir de quelle qualité de pétrole on parle, mais c'est bien pour dire que c'est pas le débat de la fin du pétrole. C'est vraiment celui du pic de production, c'est-à-dire le moment où on n'arrive plus à augmenter le débit de la production et que ça décline. Donc, exemple concret, ben, l'Angleterre a eu son pic de production en 1999, la Norvège en 2001, pour prendre ce qu'on avait en Europe comme production exploitable, et les Norvégiens l'ont dit très clairement, c'est pas qu'il n'y a plus de pétrole à exploiter, c'est qu'on a beau augmenter les investissements, on n'arrive pas à augmenter la production. Hein, la Norvège, c'est le pays le plus transparent et qui réussit le mieux au monde à gérer sa manne pétrolière. Tous les autres ont des difficultés d'une manière ou d'une autre. Et donc, bon, on a un nouveau terme, si j'ose dire, le terme de déplétion, qui est ce moment où ce n'est pas la pénurie, mais la production commence à descendre. On parle des fois de pic de Uber, voilà le principe qu'a mis en œuvre Uber, c'est très simple. Il a constaté que déjà, quand on regardait le... Oui, alors du coup, je parle trop fort, là, parce que je vois quelqu'un qui...
Trop près.
Il y a un problème de dosage. Alors... Donc, pic des découvertes en gris, il constate, il était en 1956, qu'on arrive à peu près à cette courbe-là, elle est beaucoup plus compliquée, mais il arrive à la lisser. Il y a encore du pétrole à découvrir, il extrapole, et il dit, bah, finalement, le début de la courbe de production, c'est la même forme, donc je considère qu'il y a un décalage de 33 ans, et je prévois le pic de production juste pour les États-Unis en 1970, très bien, voilà, cette époque-là, on lui dit c'est n'importe quoi, et il a eu raison. Vous avez ici en rouge la production réelle, et vous avez en noir son modèle. C'est un petit peu idéalisé parce qu'en fait, il avait fait deux prévisions, il croyait plus à l'autre prévision que celle-ci. Enfin, peu importe, mais c'est ce qui a mis en place quand même la prospective pétrolière et la manière de décrire la production future. Si on veut l'appliquer au niveau mondial, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il se trouve que le cas des États-Unis était relativement simple. On arrivait à la ligne courbe en cloche. Si on parle rien que l'Angleterre, il y en a déjà deux. Donc là, on a une situation un petit peu plus complexe, mais dans les grandes lignes, on reprend cette méthode, on l'adapte à la complexité de la situation, et ça marche relativement bien. Donc le pic, là on revient, c'est la courbe en gris de la méthode d'Hulbert, on regarde le pic des découvertes. Quand est-ce qu'on a atteint le maximum des découvertes? Alors vous voyez qu'en fait, les découvertes, c'est assez irrégulier. Parce que bien évidemment, il y a un côté aléatoire, on ne sait pas ce qu'on va découvrir d'une année sur l'autre, donc c'est assez irrégulier, mais quand même, on arrive un peu à imaginer avec un peu d'imagination. La courbe en cloche que vous voyez au vert, elle a tout à fait la même forme. Et au niveau mondial, on a un maximum des découvertes aux environs 1965, milieu des années 60. Alors le décalage n'est pas de 33 ans, sinon on aurait déjà vécu le pic de production, et on voit qu'il reste du pétrole à découvrir, donc on est bien dans le schéma à peu près de Uber, c'est-à-dire on sait qu'on a atteint le maximum, on continue à en découvrir, mais pas suffisamment. en termes de production, de consommation, on est aux alentours de 30 milliards de barils par an. Donc vous voyez que ça fait quand même un certain temps qu'on découvre moins qu'on consomme. Alors, quand on parle de pic de production, ça c'est un élément important. On parle des fois de plateau ondulé. On ne peut pas rester fixé sur cette image. Il y a trois grandes questions. Le niveau de la production au plateau, c'est-à-dire au moment où on arrive au maximum. On y est, hein, depuis 2005, on est arrivé dans la phase de plateau. La durée de ce plateau, donc en gros, il va durer jusque 2015-2020, on va y revenir. Et le taux de dépression après le pic, c'est-à-dire à quelle vitesse la production va descendre. Ça, c'est un débat qui est relativement peu lancé, puisqu'il y a déjà un débat sur le pic en lui-même. On pourrait y revenir. Et certains considèrent que non, on n'a pas de problème de pic. Et j'espère qu'on arrivera peut-être, je pense que s'il y a un élément important, c'est que s'il y a des gens qui sont sceptiques à la fin de la première partie, qui posent peut-être quand même quelques questions au cours de présentation, pour qu'on soit clair sur le constat. On peut avoir un petit doute sur à 5 ans près, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous dites, moi j'y crois absolument pas, très bien, là il faudrait qu'on en parle. Non, parce que c'est généralement des questions de représentation mentale derrière, c'est assez simple et c'est intéressant, hein, parce que quelque part, au fond, il n'y a pas complètement tort celui qui n'y croit pas complètement, donc pourquoi? Donc là, on a une prévision qui était faite en 2004 pour voir un peu comment ça peut s'articuler sur la suite. Alors, en rouge, vous avez une vision relativement réaliste, c'est-à-dire que c'est environ ce qui va se passer. Et en bleu, eh bien, vous avez un problème, c'est-à-dire que c'était la prévision en 2004 de l'Agence internationale de l'énergie. Et le gros problème, hein, c'est pour ça que je présentais juste avant, c'est que l'Agence internationale de l'énergie n'est pas tout à fait convaincue qu'il y a un pic de production de pétrole. C'est un peu gênant, parce que c'est eux qui sont censés faire de la prospective pour la planète. En tout cas, ils ont une étude de prospective qu'ils font tous les deux ans et qui sert quand même de référence ou d'alibi à beaucoup de gens. Et donc, c'est un petit peu gênant qu'on ait une dissension au niveau du discours à ce niveau-là. Bon, ils sont assez pilotés par Washington et c'est très politique, on le sait, mais pas uniquement. Il y avait un débat, pour vous dire, au niveau... Parce qu'il y a un groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les pics de production de pétrole et de gaz. Donc il est présidé par Yves Cochet. J'ai fait la présentation à peu près similaire à celle-ci d'inauguration du groupe de travail. Et il y avait quelqu'un de l'Agence internationale de l'énergie qui quand même, vous voyez le contexte, groupe d'études sur les pics de production de pétrole et de gaz. Je fais cette présentation, vous ne l'avez pas vue en entier, mais enfin je suis quand même bien dans le vif du sujet. Qui pose comme question, mais le pic, c'est absolument pas le problème. Il n'y a pas de problème de pic. Ah, très bien. Bah, donc, c'est pas complètement abstrait. Hein, comme... Donc, on va voir ce graphique actualisé est légèrement compliqué, n'ayez pas peur. C'est parce qu'on va préciser les types de pétrole, et je vais vous en parler un tout petit peu. Donc, en fait, c'est le même qu'on va voir actualisé 2008. Il ne ressemble pas, hein, on est d'accord, mais c'est le même. Alors, je vais vous montrer ce qu'on avait avant. Donc, ben voilà la courbe qu'on avait, alors malheureusement en rouge avant. L'Agence internationale de l'énergie régulièrement baisse ses prévisions, mais enfin, ils sont quand même sur quelque chose qu'on considère assez optimiste, on va dire. Et on peut considérer qu'eux essayent de voir quelle va être la demande. Hein, quelle serait la demande. Alors maintenant, on est dans une période de crise économique, ça a un petit peu changé, mais sinon, c'est la demande tendancielle, c'est plutôt ça qu'ils essaient. Ici, en vert, on a les pétroles conventionnels, c'est-à-dire les pétroles faciles à produire. C'est un petit peu ce type de pétrole qui est sous-jacent pour la notion de pic de production dont j'avais parlé. Et puis, il y a un type de pétrole très important qui est les pétroles non conventionnels. Alors, pour prendre quelque chose de schématique, les non conventionnels, on est plus proche du charbon comme technique de production, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même aller creuser un moment à la petite cuillère et récupérer ce type de produit. Vous avez sans doute vu sur les sables asphaltiques au Canada ces énormes camions, enfin, c'est des images qu'on a beaucoup vues, qui vont transformer. Et donc, le souci, c'est que les pétroles conventionnels, là encore une image schématique, c'est le Sahara, le désert, vous creusez un puits et ça jaillit tout seul. Et donc, ce que certains voudraient nous faire croire, c'est que tout ça, c'est du pétrole, on peut le considérer de la même manière, et la chute de la production du pétrole facile, qui jaillissait tout seul, va être compensée par ce pétrole difficile qu'il faut aller chercher à la petite cuillère. Ben non. C'est-à-dire que même si on a mal estimé les réserves de pétrole non conventionnelles, et qu'il y en a plus que prévu, et ben on ne va pas pouvoir les mettre en production assez rapidement pour compenser la baisse de production de gisements de pétrole conventionnel. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit. Donc là, il y a des petites hypothèses qui ont été faites. Une très optimiste qui serait, voilà, imaginons qu'on ait le double de ce qu'on imagine. Là, on imagine environ 1000 milliards de barils. Hein. Ça, c'est des terras, hein, 2 terras barils. Donc là, on dit en pétrole non conventionnel 1 terras baril. C'est l'hypothèse de travail. On pourrait en avoir beaucoup moins, parce que finalement, quand on regarde, on arrive bien à estimer cela, on a du mal à arriver au milliard, mais on arrondit, hein, on est quand même sur du... Et puis, si on vraiment est optimiste, on a 2 milliards. Si on est optimiste, on arrive à peu près à cette courbe-là. Donc, ça ne décale pas exactement la date du pic de pétrole, mais on voit que ça ralentit. Alors là, et c'est tout l'enjeu des pétroles non conventionnels, c'est que ça va ralentir la vitesse du déclin. Et ça, c'est quand même pas négligeable, hein, facilité à gérer la chose. Alors, par contre, je laisse Pierre Adam dans ce rôle sur le climat, ça fait hurler les gens du climat, puisqu'effectivement, c'est pas que je suis pas du climat, mais effectivement, c'est une catastrophe en termes d'émissions de CO2. Donc on pourrait avoir un scénario un petit peu plus pessimiste, hein, en fait, si on met vraiment le tout bout à bout, on n'arrive que à ces chiffres-là, mais en arrondissant, en disant qu'on arrive toujours un petit peu plus, et on arrive à ça. Donc voilà pour l'essentiel. Donc ici, vous avez la prévision de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, ils sont quand même dans une posture difficile, c'est-à-dire qu'ils disent que la production va toujours continuer à augmenter, mais ils commencent à être tellement décriminalisé qu'il faut qu'ils trouvent des moyens, des astuces de faire passer le message. C'est une interprétation, hein, que je fais de leur discours, mais c'est pas complètement faux. Donc là, ils ont décomposé en types de pétrole et ils sont bien obligés de montrer, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, que ici, eh bien, les gisements en production, hein, comme je vous disais, naturellement, ils perdent les capacités il arrive en déplétion au niveau de chaque gisement. Voilà ce qui est perdu. C'est-à-dire que si on faisait strictement rien sur les gisements en production, on n'aurait pas la courbe bleu clair, mais on aurait la courbe bleu foncé. Et donc ça, c'est quand même des résultats qui font sortir. C'est une manière de commencer à dire qu'il va y avoir un problème sans complètement annoncer qu'il y a un problème demain. Là, j'avoue que je pensais quand même que sur le rapport 2008, il serait un petit peu plus proche que d'une vision partagée dans la communauté des experts pétroliers, mais non, voilà, ça serait un petit peu inquiétant. Ceci dit, c'est quand même beaucoup Washington qui pilote. On va voir si avec le changement d'administration pour le rapport 2010, il y a un changement de discours. Ça va prendre du temps, mais c'est probablement ce qui va se passer. Espérons-le. Donc, je ne rentre pas dans le détail pour expliquer pourquoi ce n'est pas tout à fait réaliste et comment il faudrait arriver à rebaisser un certain nombre de chiffres pour revenir aux estimations que j'ai présentées avant. Donc voilà, ça c'était la première partie. Alors, je suis peut-être passé un tout petit peu rapidement. Voilà, je reste sur la première partie. Donc, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci. S'il y a des gens qui ont des questions, qui disent que oui, mais quand même, là, est-ce que... voilà, allez-y, ou vous les poserez à la fin comme vous voulez. Mais je crois que c'est important de... Oui.
Une question, c'est sur le gaz naturel.
Oui.
Parce que...
Oui. Sur le gaz naturel, j'ai pas présenté le pic de gaz naturel. C'est assez intéressant. Alors, j'ai le graphique qui est en fin de présentation. Je pourrais vous le montrer. Sur les gaz naturels, les données sont un petit peu moins bonnes. C'est-à-dire que les données confidentielles sont un peu moins convergentes que pour le pétrole. Donc ça, c'est une première difficulté pour faire une estimation. L'idée, c'est qu'il y a un pic aux alentours de 2025. Hein, il est un peu plus tard, on est plutôt sur 2015, là, il serait sur 2025. Et qu'on arriverait, certains pensent qu'on arriverait à un plateau vers 2020. Donc on aurait probablement un plateau plus long. Et il y a eu, sur le gaz naturel, il faut quand même le dire, une surprise avec le gaz non conventionnel, c'est-à-dire des gaz qu'on pensait qui seraient difficiles à exploiter, finalement on réussit à exploiter, et qui changent quand même la donne. Alors ça fait partie des petites surprises qu'on peut avoir. Les petites surprises qu'on a dans le domaine du pétrole, c'est les gisements du Brésil, hein, qui ont été découverts récemment et auxquels on ne s'attendait pas réellement. Comparé aux mauvaises surprises, notamment le déclin plus rapide du Mexique, ça compense largement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est cet ordre-là, ça ne change pas le tableau général. Sur le gaz, les surprises changent un petit peu le tableau, ce qui fait qu'on a un petit peu difficulté à déterminer quel va être le profil exact de la production future. On ne peut pas le faire de manière aussi précise. Par contre, on peut quand même dire que, quelque part, il y aura des contraintes suffisamment fortes sur le gaz pour qu'on ne se dise pas « bon, bah, finalement, on a un problème sur le pétrole, on se reporte sur le gaz et tout va bien. » D'un point de vue uniquement technique énergétique. D'un point de vue climatique, ça pose des problèmes, donc c'est un petit peu mieux le gaz que le pétrole, mais donc voilà, on a quand même une contrainte qui fait que ça va être un petit peu difficile. Et puis alors en Europe, notre approvisionnement en gaz va être quand même un petit peu problématique dans les années, voire décennies à venir, sachant qu'il y a quand même des investissements très lourds, et notamment en termes de... Alors il y a des usines de gazéification et de liquéfaction pour pouvoir le transporter par bateau. Et ça, c'est des investissements très lourds et qui se mettent pas en œuvre du jour au lendemain. Donc là, il y a un effet d'inertie très long qui fait qu'on aura probablement des tensions et que l'approvisionnement russe, il ne faut pas non plus penser que c'est que politique. Les soucis qu'on a eu plusieurs hivers maintenant, mais qu'il y a aussi une difficulté d'approvisionner au bon débit une Europe sur laquelle il y a une vague de froid généralisée. Et là, c'est un petit peu difficile à suivre. On commence à être en limite de capacité du réseau de distribution. Donc là, on arrive vraiment à une situation un petit peu tendue. Voilà. S'il y a d'autres questions, allez-y.
Dans les cours.
Est-ce que, pardon, juste à chaque fois, il y a pas les paroles.
Oui. Maxime Coffin, aviation civile. Dans les cours que vous avez...
Merci beaucoup. Dans les courbes que vous avez présentées, les productions, ça fait, dans les hypothèses, on exploite au maximum tous les gisements disponibles compte tenu de leurs difficultés, ou ça tient compte aussi de stratégies éventuelles de production?
Non, là, c'est essayer de se placer, vous avez raison, c'est une question, c'est essayer de se placer, sans aller jusqu'à une exploitation au maximum, disons une exploitation au maximum réaliste, sans considérer des contraintes plus d'ordre économique ou effectivement de stratégie des acteurs, parce que évidemment, on peut imaginer qu'un pays comme la Russie, mais c'est pas le seul, puisque c'est eux qui sont mis en avant quand on parle de stratégie, vont éventuellement dire bah, maintenant nos réserves, maintenant qu'on est arrivé au pic, on va les gérer pour que ça les faire durer, et donc on pourrait avoir un niveau de déclin assez rapide. Et alors là, si après 2020 on a un déclin de l'ordre de 5%, c'est pas du tout la même chose que si on a un déclin de 20%. Et là, j'avoue que le débat, malheureusement, n'est pas assez lancé sur cette partie-là. Mais vous avez probablement constaté que le débat, déjà sur le pic, bon, ça a avancé, mais il n'y a pas un consensus total. Et c'est dommage parce que ça cache justement ce débat-là. C'est quel va être le déclin. Et alors, pour pouvoir avoir le déclin, le taux de déclin, le taux de dépression, il va falloir voir effectivement, il y a des considérations géopolitiques, quelles vont être le jeu des acteurs, des considérations techniques sur les pétroles non conventionnels, donc il y a pas mal d'inconnus. On considère 2% comme l'hypothèse de travail, mais si c'est plus, ça va être. Et déjà 2% hein, tous les ans, ça va être très difficile à gérer. On est sur quelque chose d'assez lourd.
Christina, tu peux...
Oui.
Christina Astoroni, Assemblée nationale. Faire un tableau complet, si vous pouvez nous parler du charbon.
Alors, très rapidement, le charbon, il n'y a pas trop de problèmes sur les ressources, c'est-à-dire qu'en termes de quantité, si on avait un pic, on l'aurait plutôt vers 2050. Il y a, par contre, un problème sur les infrastructures d'acheminement. Là encore, on est dans une optique, on oublie le climat et on essaye de voir ce qu'on peut faire au maximum pour répondre aux besoins énergétiques. Hein, c'est... Et là, on se rend compte que ça va être assez compliqué de pouvoir faire suivre l'investissement en termes d'infrastructure, surtout dans un contexte qu'on a actuellement où la situation économique n'est pas claire, voire assez morose, et on a du mal à faire des prévisions sur les prix futurs. L'effondrement n'est pas exclu. Donc, ce sera difficile de réussir à faire augmenter la production pour pouvoir répondre aux besoins qui existeraient. Ce que je vous annonce, mais vous le savez déjà, c'est qu'il va falloir trouver un autre modèle de développement. Hein, mais c'est bien de le dire, mais il faut quand même qu'on voit que de toute façon, on ne peut pas continuer réellement le nôtre, même si on réussissait à museler les Chinois et les Indiens et qu'on trouvait une solution pour que eux n'arrivent pas sur notre mode de développement. Ça, tout le monde en a conscience, il n'y a pas de doute là-dessus. Et sur le charbon, on parle de liquéfaction du charbon. Finalement, les Chinois avaient étudié cette solution, mais ils vont avoir besoin de leur charbon tout court. Et comme chaque fois qu'on fait une conversion dans un autre type d'énergie, une forme d'énergie, on perd en termes de rendement global, puisqu'on a gagné en ayant une forme liquide qui est plus facile à utiliser, mais on a perdu en termes de quantité d'énergie réellement utilisable de cette ressource initiale qui est du charbon solide, ils se rendent compte que ce n'est pas forcément très rentable. Alors il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont beaucoup de charbon, ou l'Australie qui ont beaucoup de charbon, beaucoup plus que leurs besoins, qui eux pourraient rentrer dans ce type de jeu, tiens je vais en liquéfier. Mais finalement ça risque d'être relativement marginal comme solution, et ça ne va pas réellement changer la donne. Et quand, dans cette prévision, c'est tout liquide, hein, c'est précisé, mais c'est-à-dire qu'on a également essayé d'inclure les biocarburants, les agrocarburants, comme il faut plutôt le dire, et toutes les formes un petit peu exotiques de pétrole, notamment les condensats, puisqu'on trouve des hydrocarbures liquides dans le gaz naturel. Donc ça aussi, c'est inclus. Et également les gains de raffinerie, c'est-à-dire qu'en réhydrogénant une partie du pétrole lourd, on arrive à avoir des gains dans les raffineries, uniquement, donc on appelle ça des gains de raffinerie. Tout ça est pris en compte pour essayer d'avoir une vision réaliste. Alors il y a toujours une marge d'erreur, hein, il faut en être conscient, il y a toujours des problèmes sur les définitions. Si vous prenez rien que sur les données passées, hein, les chiffres de l'AIE et de BP, hein, British Petroleum, qui sont deux sources d'informations, ben, ils ne sont pas d'accord sur, enfin, on n'a pas exactement le même chiffre, sur la production passée. Donc vous imaginez pour le futur. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
J'aurais voulu un éclaircissement selon vous. Qu'est-ce qui fonde, soit techniquement, soit politiquement, la posture de l'AIE?
Ah, alors je fais un élément parce que je ne résiste pas, mais j'ai entendu un jeu prendre par de. Si vous avez une vision très économique néoclassique, je précise parce qu'on ne va pas acheter tous les économistes tout de suite, vous dites finalement offre-demande, c'est le prix qui détermine la quantité disponible, puisque plus le prix est élevé, plus je peux mettre de moyens pour exploiter mes ressources, et bien finalement il n'y a pas de problème. Et si vous êtes sur une vision, je fais des petits ajustements à la marge et j'extrapole ça sur du long terme, c'est ce que font implicitement les économistes qui restent très rivés sur leur modèle, eh bien il n'y a pas de problème puisque les réserves sont importantes. Et il faut avoir une vision, entre guillemets, un petit peu plus ingénieur, un petit peu plus main dans le cambouis pour dire, ah ben oui, on a un problème sur la mise en œuvre des chantiers industriels. Alors,